Et vous écoutez La Rage sur le 99.fm ou sur www.la-rage.fr. Pour vous donner une petite idée du sujet d'aujourd'hui, on va commencer avec une petite capsule sonore.
La pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours.
Oh, la superbe pomme, ça c'est gentil.
J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes.
Ah, superbes, ils sont superbes.
Je vais en emporter une.
C'est moi en Corrèze. Et il y a des pommiers qui sont pas de très grande qualité, il faut bien le reconnaître. Et on fait des pommes pour faire un petit cidre qui n'a pas non plus de grandes prétentions, mais que j'aime bien. J'aime beaucoup les pommes. Et...
Salut.
Mangez des pommes.
Ah oui, c'est bon les pommes pour la santé.
Ce qui est sûr, c'est que si jamais Jacques Chirac ne réussit pas dans ses entreprises, je l'embauche comme vendeur de pommes.
Pommes. Et...
Donc c'était en effet Jacques Chirac qui défend la pomme de Corrèze. Et ici, on a aujourd'hui avec nous dans les studios les croqueurs de pommes de Touraine qui défendent donc pas les pommes de Corrèze mais les pommes de Touraine. Bonjour à tous.
Bonjour.
Et on a aussi Thomas qui est présent pour le direct d'aujourd'hui en invité d'honneur. Thomas qui est étudiant à l'EPJT et qui est avec moi aujourd'hui pour animer le direct. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Tous les autres, bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui est-ce que vous êtes? On fait un petit tour de table, on a quatre personnes qui sont là. On va commencer par ma droite.
Bonjour, je suis Francis Laurent, j'habite Montbazon et j'adhère à l'association des croqueurs de pommes de Touraine depuis 2 ans.
Bonjour, je suis Gérard Bordorionnet, j'habite aussi à Montbazon, je suis vice-président des croqueurs de pommes et secrétaire.
Bonjour, je suis Jean Delaveau, moi je suis de Jouer-les-Tours et j'adhère depuis une quinzaine d'années, mais je ne suis qu'un simple soldat.
Jean-Pierre Couturier, mais moi je suis d'un peu plus loin, je suis du Sud-Touraine, de Bousset, et je suis président de l'association des croqueurs de pommes de Touraine. Je suis adhérent depuis 1990 aux croqueurs de pommes.
Donc depuis quasi la toute création, l'association locale, elle a été fondée en 87 par Jean-Louis Choiseul, si je ne me trompe pas. Donc c'est une antenne locale de l'association nationale des croqueurs de pommes. Donc comment ça fonctionne du coup? Est-ce que chaque association locale défend certaines variétés de pommes du coup? Comment ça se passe?
Oui, il existe 80 associations locales comme la nôtre, qui sont donc fédérées par le mouvement national, dont le siège national et historique est à Belfort. Et chaque région, c'est pas forcément le sens administratif des régions, mais disons, chaque région défend bien sûr, c'est le principe, les variétés anciennes locales.
D'accord, donc du coup les... Je vous en prie.
Je rajoute un petit peu à Jean. Donc, bon, le but, il est surtout de sauvegarder ces variétés locales que l'on ne retrouve plus maintenant dans les pépinières ou dans les jardineries. Voilà. Et puis, pour faire un petit rajout, le mouvement, il est également européen. Parce que les croqueurs de pommes sont membres d'un groupement européen qui s'appelle Europom, qui organise tous les ans donc, une expo de pommes au niveau européen. Et l'année prochaine, elle sera en France à Troyes.
Alors... En fait, peut-être la première question par laquelle il fallait commencer. Pourquoi les pommes? Pourquoi pas les cerises? Pourquoi pas
Alors,
les pêches?
C'est une très bonne question. Croqueur de pommes, l'appellation est très trompeuse, puisqu'en fait, il faut entendre par là tous les fruits. C'est le pomme, alors parce qu'il y a eu Pomone, une déesse romaine, mais en fait, il faut comprendre tous les fruits, et ça varie selon les régions. Si on va vers le centre de la France et le Massif central, il y a des gens plus spécialisés sur le châtaignier, sur le noyer. Dans le sud-ouest, les fruits à noyaux, abricots, pêche, et puis dans le sud-est, la vigne, et dans le bordelais aussi, bien évidemment, et dans d'autres régions. Mais nous, c'est la pomme, puisque pomme et poire, en fait, c'est ce qui est le plus représenté. Bon, on s'intéresse aussi à la cerise, aux prunes, mais c'est surtout la pomme qui domine, pomme et poire qui domine. Donc les fruits à pépins.
Donc ici, en Touraine.
En Touraine. En tout
cas, parce que c'est les fruits qui sont les plus mangés ici,
ouais,
ou les plus produits.
Est, je crois, en France, le fruit le plus consommé au niveau du monde. c'est le troisième fruit après les agrumes et la banane. Sachant que dans ces statistiques, il y a toutes les utilisations qu'on en fait, y compris les confitures et les jus. Hein, mais en France, c'est la pomme qui est le fruit le plus consommé.
D'accord.
Alors en Touraine, bon, on a quand même bon, quelques fruits à noyaux. Bon, en particulier donc les quelques prunes, mm-hmm. hein, la Sainte-Catherine et les prunes de Tours, les damas de Tours, qui servaient à la fabrication du pruneau de Tours.
D'accord, donc il y a du coup les pommes, les poires et les prunes qui sont dans les variétés auxquelles vous vous intéressez au sein de votre association.
Voilà, alors les prunes au niveau de la Touraine, bon, ça tourne autour de, je dirais, 5 variétés maximum.
Ah un téléphone qui n'a pas été coupé. C'est pas grave, c'est une
et
petite
c'est
pause
le
musicale.
Donc lui, il a droit. Heureusement que c'est pas moi, ça, le soldat.
Je peux en profiter pour.
Eh bien, je vous en prie.
Donc nous avons aussi plusieurs variétés d'amandiers typiques de la Touraine. L'amandier était très cultivé autrefois. Nous faisons un partenariat actuellement avec un pépiniériste du Maine-et-Loire qui veut relancer ses variétés anciennes. Et qui nous a contactés justement pour retrouver nos variétés de pommes, etc. Et qui, lui, est spécialisé aussi sur les amandiers.
D'accord. Donc, du coup, il y a plusieurs fruits qui sont, auxquels vous vous intéressez dans la sauvegarde, du coup, de variétés anciennes. Comment ça se passe pour retrouver des variétés anciennes qui sont en voie de disparition? Comment ça marche concrètement? Si on sait que telle variété est en voie de disparition, comment on la retrouve?
Alors, il faut s'adresser aux anciens. Il faut, au travers des relations qu'on peut avoir dans des vieux jardins, des vergers qui datent, avec des personnes anciennes, et le souvenir. Hein, mais c'est très difficile. Et souvent, ce qui est difficile, c'est l'identification. Parce que les gens ont la variété, mais ils savent pas forcément quelle est son appellation. Hein.
Et donc, du coup, vous avez des formations pour ça, pour apprendre à connaître les variétés de pommes.
Elle est tombée en plein dedans, bien sûr. Ça fait partie de, ça fait partie de notre credo, à savoir que si on veut les sauvegarder, il faut les multiplier et il faut que les gens en implantent sur leur terrain. Chaque fois qu'on implante un arbre, on en gagne 50 à 80 ans. Nous organisons des séances de taille. Il y en avait une il y a 15 jours à Vignay sur notre verger de sauvegarde. Je dis verger de sauvegarde. Hein. On reviendra tout à l'heure, si vous voulez, me poserez la question entre verger de sauvegarde et verger conservatoire. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Donc, séance de taille. Et là, ce week-end, nous avons une opération qui s'appelle greffon et greffage. Les gens peuvent venir, ça se déroule, c'est gratuit bien sûr, ça se déroule à la salle des fêtes de Vignay et les gens peuvent venir choisir des greffons et ils peuvent acquérir des porte-greffes et nous avons des camarades spécialistes qui grefferont et ils n'auront plus qu'à planter l'arbre chez eux et être patients pendant 4, 5 ou 6 ans pour qu'ils commencent à donner les premiers fruits.
Alors je tiens à préciser, ce sont des variétés que l'on ne trouve pas dans les catalogues officiels et dans les jardineries. Ce sont vraiment des variétés de la région locale, bon, certaines débordent un petit peu, mais ce sont surtout des variétés que vous ne trouverez pas dans le commerce normal. Parce que l'association ne fait pas concurrence aux pépiniéristes.
Qu'est-ce qui fait qu'on ne les trouve pas dans les catalogues officiels? Est-ce que c'est des variétés qui sont peu productrices
Si vous allez dans votre supermarché le plus proche, vous pourrez voir que tout au long de l'année, il y a à peu près 8 à 10 variétés que nous trouvons en France dans tous les supermarchés. Point à la ligne. Alors, nos variétés ne sont pas trafiquées ni traitées comme font les professionnels, c'est-à-dire que si on les mettait comme elles sont en vente au supermarché, c'est pas sûr que les gens se précipiteraient dessus parce qu'on y... Et nous ne traitons pas, nous sommes bio. Au niveau de l'aspect, on ne tient pas la concurrence. Mais ça ne veut pas dire que ces fruits ne sont pas goûteux ni intéressants.
Voilà, et puis disons, le problème pour les pépiniéristes qui multiplient les variétés, eux, ce qui les intéresse, c'est de multiplier des grandes quantités. Mm-hmm. Hein, puisque maintenant, bon, le greffage, il est plus manuel. Il est fait par des machines. Donc, on trouve à part bon, comme le projet là, que l'on accompagne, là, du jeune pépiniériste qui veut lancer de la production de variétés locales rares, on va trouver que des variétés en fait multipliées à grande échelle. Mmh. Et les multiplicateurs ne font pas des séries spéciales pour les amateurs. L'amateur va trouver en jardinerie le reliquat de la production industrielle de plants.
Donc en fait, du coup, assez simplement, on ne trouve pas ces variétés-là dans les catalogues parce qu'il y a peu de demandes. C'est un bon résumé.
Il n'y a pas d'offres et donc peu de demandes.
Oui, donc il faut préciser que toutes ces variétés ont été abandonnées, voilà, 50 ou 60 ans, parce qu'on voulait des variétés qui produisaient plus, tout simplement, qui devenaient aussi plus grosses, avec un plus bel aspect. Par contre, ces variétés demandent beaucoup de traitements. Mmh. Nos variétés ont l'avantage d'être adaptées au climat local, et donc ont besoin de moins de traitements. Et en plus, elles sont mûres à différentes périodes de l'année.
Et comme ça, on en a...
Ce qui fait qu'autrefois, on avait un panel de pommes du mois de juillet jusqu'au mois de mars-avril. Hein. On a encore des pommes actuellement, sans être dans des frigos, qui sont bonnes à manger, à déguster.
Est-ce que justement, ce n'est pas des critères qui pourraient faire que ces variétés-là, qui ont été abandonnées dans le passé, peuvent revenir sur le devant de la scène, justement ?
Si on note actuellement une tendance, justement, chez les jeunes agriculteurs, un retour vers ces variétés anciennes, hein, mm-hmm. parce qu'ils essaient d'être plus respectueux, si vous voulez, de la vie, hein, de la biodiversité, et donc ils reviennent chez nous parfois acheter des variétés anciennes pour les mettre... par exemple, au bout de leur rang de vigne, hein, on a ceci. Voilà. Et d'autres qui se lancent dans la permaculture, on en a qui vont venir d'ailleurs demain et qui veulent réimplanter ces variétés anciennes à côté de leur jardin en permaculture pour qu'on trouve ces variétés sur les marchés. Mais dans l'avenir, ça va demander quand même quelques années avant que les arbres produisent.
Et parallèlement, on assiste au niveau des collectivités à un regain d'intérêt à conserver ces variétés-là et à faire des vergers où la population pourra venir justement découvrir ces fruits-là et en consommer. Alors, à titre d'exemple, là, on est à un projet avec la commune de Vous, entre Loche et Ligueuil, mm-hmm. hein, sur 3,5 hectares. La commune, au lieu de réaliser un projet paysager habituel, hein, avec des essences horticoles, c'est orienté vers notre association pour justement faire un verger paysager avec des variétés anciennes de pommiers, de poiriers, de pruniers et de quelques cerisiers. Alors en outre aussi, il y a la commune de Chédigny qui a rénové son presbytère à base de variétés anciennes, et également la commune de Chanet-sur-Latan, donc qui a mis en place un verger de sauvegarde. Et là, il y a également la commune de Huîmes, qui, elle, c'était plutôt le pruneau. Hein, on parlait de la prune tout à l'heure, mais qui veut relancer la mémoire du pruneau au sein de la commune et qui, d'une part, déjà, la rénove des fours et nous a demandé donc de rechercher et de préparer des variétés de pruniers et de poires asséchées.
D'accord. Donc, vous travaillez en parallèle avec... Les maisons qui font de la poire tapée, par exemple, peut-être, ou pas forcément ?
Les associations de poire tapée ont déjà leur propre verger, mmh. hein, depuis plusieurs années. Mmh. Et donc, ils ont leur propre variété. Donc, d'accord. Nous avons des liens, on va dire, presque affectifs, hein, avec eux. On a, en particulier, cette année, on a fait notre exposition sur le thème du pruneau de Tours. Et des poires et pommes et des fruits séchés. Et donc, évidemment, on les a contactés pour qu'ils nous prêtent des documents et qu'ils viennent nous aider à animer notre animation, notre exposition.
Oui, mais les poires tapées, autant que je sache, et je connais bien deux producteurs, Ils sont faits à partir des variétés industrielles classiques que vous trouvez dans les magasins, puisque ou bien ils ont leur propre verger, ou bien ils achètent chez un producteur les poires pour les traiter.
D'accord. Et donc, alors depuis tout à l'heure, du coup, on parle de variétés locales et anciennes. Est-ce qu'on pourrait les nommer pour savoir qui elles sont, ces variétés ?
Alors la Touraine, bon, elle est très riche en variétés fruitières. Alors, bon, moi je suis plutôt du Lochois, donc je parlais de variétés du Lochois. Mm-hmm. Alors en pomme, par exemple, on a la Mercier, qui est une excellente pomme, cultivée sud-Lochois, Touraine-Centre. En poire, il y a la poire d'Aizée, la bonne d'Aizée, qui est vraiment une poire originaire de la Touraine. Après, on avait la partie production industrielle, hein, entre guillemets, jusque dans les années 30, vers toute la vallée donc, de Langeais, voilà, où on retrouvait principalement la Rainette du Mans, mm-hmm. la jaune beurre, hein, en pommes. Hein. C'était des pommes cultivées à grande échéance, parce que ces pommes-là, justement, elles avaient les qualités de pouvoir être cueillies pas tout à fait mûres, mm-hmm. et donc de résister, elles étaient dures, donc de résister aux chocs de transport, et de mûrir tout au long de l'hiver, jusqu'à la fin mai.
D'accord, donc des variétés qui terminent leur maturation après
naturellement
avoir été cueillies.
Dans une cave. Voilà. Et puis après, un peu plus vers l'est, vers l'ouest, on avait l'emblématique pépin de Bourgueil. Ah, oui. Voilà. c'est une des pommes qui est très bonne. Hein, qui est...
La Martrange.
La Martrange. Mmh. Voilà. Après, on a des variétés qui ont un peu été généralisées, je dirais, grand centre, grand ouest, hein, comme la pâte de loup, par exemple, hein, qui est une pomme aussi bien connue en Touraine, en Berry, qu'en Vendée, qu'en Deux-Sèvres. Et puis après, les variétés un peu limitrophes. Alors on va voir la Belle-Fille de l'Indre, qui était, voilà, qui était cultivée à cheval sur la Touraine et sur l'Indre. Qu'est-ce qu'on avait d'autre plus vers la jaquette. Après, on avait les pommes à cidre, à jus, comme la jaquette. Puis par contre, vers Amboise, je connais moins.
On a aussi des variétés très locales, comme la Rougeon du Lochois, hein, qu'il ne faut pas oublier quand même. Bon, on ne peut pas la conseiller, c'est pas mauvais, mais on ne peut pas dire. Bon, elle avait l'avantage de bien se conserver, etc. Mm. Toutes les variétés locales anciennes n'étaient pas forcément
parfaites
hein, pour le goût, mais elles se conservaient. Et puis les gens étaient moins difficiles autrefois.
Dans l'histoire des pommes, hein, bon, y a des anecdotes. Hein. Par exemple, le surintendant de Louis XV, c'était Turgot, avait fait prendre un édit au roi, dans lequel il encourageait donc les agriculteurs à cultiver des pommes, et il nommait quelques variétés, et principalement ces variétés-là, parce que c'est bonne à trois fins. Elles étaient bonnes à couteau, à jus, et également pour les cochons.
Mmh, intéressant.
Donc là, on voit un peu les notions.
Bon, on parlait des poires tapées. Alors, autrefois, on faisait des poires tapées avec des poires qui poussaient sur des poiriers qui étaient venus dans les haies. Alors, il y a quelques noms très drôles. Oui, la queue de rat, vert papin, petit je ne sais plus, enfin, des choses très drôles, quoi.
Bah, y avait...
Mais maintenant...
queue de rat, passe Colmar, ou Colmar de Chinon... Et puis Martin Sec.
Oui, voilà, Martin Sec. Voilà.
Une autre poire auquel je tiens beaucoup, hein, parce que je suis natif de la région, la bonne de Beuny, c'est une poire qui est très bonne, qui n'a pas un très bel aspect, mais qui est très bonne.
Alors, est-ce que vous avez une variété qui a votre préférence, chacun ? Alors, j'entends pépin de Bourgueil au loin.
Pépin de Bourgueil, oui. Et puis...
Alors, quel goût ça
a ? Il y a la Belle-Fille de l'Indre, mais on peut difficilement avec un vin. L'Indre passe bien sur nos terres, mais c'était l'Indre au sens administratif. On peut difficilement la prendre pour une poire tourangelle. Pour une pomme tourangelle, pardon.
Pour une pomme tourangelle. Au niveau du goût, c'est la pépin de Bourgueil, c'est acide, c'est...
Gérard, parle-nous. Le défenseur.
Le pépin de Bourgueil est une bonne pomme, hein, voilà, qui a l'avantage aussi de se conserver assez longtemps. Mm-hmm. Hein. Et en plus, elle est bonne à couteau, elle est bonne aussi en cuite. Hein, et on la garde bien hein, jusque assez tard dans l'hiver.
Est-ce que c'est une chair dure? Est-ce que c'est farineux? Est-ce que c'est
sucré?
Ah non,
elle n'est pas farineuse, justement. Non, non, elle a une chair assez croquante.
Ouais.
Voilà, avec des couleurs jaunes, légèrement rosées aussi. Mm-hmm. Un petit peu, pas très haute, hein, un petit peu plate, quoi, voilà. C'est une très bonne pomme.
Plutôt acide ou pas vraiment?
Pas vraiment acide, non. Non, non, c'est aussi...
Elle est très réputée, cuite pour accompagner les charcuteries, en particulier le boudin.
Le boudin.
Bon, une autre pomme qui est très bonne, mais qui a un aspect répulsif un peu, c'est la pâte de loup.
Ah, voilà.
C'est une excellente pomme au goût.
Hein. Ça, c'est la pomme, disons, Grand Ouest centre, hein, qui, ouais, qui était répandue pas mal dans l'Anjou, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Touraine.
Mm-hmm.
Voilà. Alors moi, bon, ben moi, j'ai deux variétés, parce que je suis originaire de Vendée. Hein, une excellente pomme de Vendée, c'est Racine Rouge. Et également, ce que j'aime beaucoup, c'est la Mercier, qui est une pomme du Lechois.
À quoi elle ressemble, la Mercier?
Alors la Mercier, c'est une pomme un peu aplatie, qui est assez jolie, ouais, et qui est striée de rouge et de vert, et qui est douce, sucrée et bien juteuse, hein, et qui ne flétrit pas.
Pour les débutants un peu comme moi, je pense qu'on s'oriente aussi vers des pommes qui ont l'aspect de celle du commerce, en premier lieu. On n'ose pas aller vers des pommes comme la pâte de loup qui, à la première vue, ne nous attirent pas, quoi. On préfère des pommes bien rondes, colorées, rouges, jaunes. Et moi, j'aime bien la qui ressemble un peu à celle du commerce, c'est la Bénédictin.
D'accord.
Bénédictin, c'est une belle pomme d'apparence et qui a un bon goût, acidulé, sucré, beaucoup de jus. Et, qui est belle. Je pense qu'elle pourrait attirer un peu les nouveaux... qui serait plus attiré vers des pommes.
Elle se rapprocherait de quelle pomme du commerce, entre guillemets, cette pomme-là,
en
justement?
En couleur, je ne vois pas trop. Peut-être la Gala.
D'accord.
En couleur.
Ouais.
Royal Gala, à peu près, ouais.
Et en termes de goût?
Moi, je préfère, ouais, pas trop loin de la Royal Gala, quand même. Je me demande s'ils ne se sont pas inspirés de la Bénédictin pour la faire, je ne sais pas.
D'accord.
Oh non, ce n'est pas non. Les sources. Mais pour je revenir vois. À Pâte de Loup, on peut... elle a quand même un nom qui surprend. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Sa caractéristique, c'est d'avoir comme des cicatrices qui, selon la légende, étaient des griffes de loup qui n'avaient rien à manger l'hiver et qui s'étaient rabattues, bien évidemment, sur les pommes. Mais c'est pas avéré. Hein.
Donc c'est ces cicatrices qui lui donnent un aspect un peu répulsif?
Oui, parce qu'elle est marron en plus. On sait bien que la première qualité d'une pomme pour les commerciaux, c'est d'être rouge.
Et brillante.
La première qualité
et brillante. Et brillante. Donc une pomme marron avec plein de griffures.
Ah, oui.
Elle
n'a
rien pour elle,
marchand.
Mais demain, elle a de très bons goûts. Elle a de très bons goûts, du coup.
Alors demain, donc, la salle des fêtes de Vénier, il y a un atelier dégustation de ces pommes-là.
Dégustation, donc c'est de 10h à 18h à la salle des fêtes. On a parlé aussi tout à l'heure de greffe. Alors, à quoi ça sert, une greffe?
Comment ça se passe aussi?
Et comment ça se passe?
Alors là, ça devient très compliqué. Alors, en faisant court, pommier, poirier, pêcher, ce sont des espèces. Le propre d'une espèce, c'est de se reproduire. Quand vous semez un pépin de pomme, ça donne un pommier. À l'intérieur de chacune de ces espèces, il y a des variantes qu'on appelle des variétés. Et les variétés ne se reproduisent pas. Si vous semez un pépin de pâte de loup, ça ne donnera pas une pâte de loup, ou une fois sur 100 ou 200. Alors, pour les multiplier, il y a plusieurs façons, mais la plus évidente, la plus simple, celle qui marche bien, c'est le greffage. C'est-à-dire que sur un porte-greffe adapté, on apporte le greffon de la variété qu'on veut reproduire. Et sinon, comme vous savez, c'est la même chose pour les rosiers, mais là, on peut faire des boutures, par exemple. Bon, les boutures pour les pommiers, ça ne marche pas bien. Hein. C'est le greffage qui est universellement pratiqué.
Alors, le greffage, du coup, techniquement, c'est comment ça se passe? Vous avez amené de quoi faire, peut-être que vous pouvez nous montrer et faire de la description en même temps, si c'est possible, on peut se tester.
Comme son nom l'indique, le greffage, c'est le résultat d'une greffe. Et c'est quoi une greffe? C'est implanter un petit morceau avec un œil de la variété qu'on veut multiplier sur un porte-greffe qui, lui, donnera la croissance, donnera l'arbre.
Donc le porte-greffe...
On peut difficilement faire mieux, il y a différentes techniques, mais il faut les mettre pour que la sève puisse passer de l'un à l'autre. Bon, ça devient technique à la radio, c'est pas très facile de faire une greffe en démonstration.
Si on veut être un petit peu scientifique, en fait, il faut mettre en contact deux couches internes du greffon et du porte-greffe qui s'appelle le cambium. Mm-hmm. Voilà. Après, bon, c'est un peu compliqué d'expliquer tout ce qu'est le cambium, mais en fait, quand on fait une coupe, on a différents anneaux. Mm-hmm. Et en fait, il faut mettre ces deux anneaux de cambium en contact.
Donc, d'accord. Voilà, je suppose que l'importance de quel anneau est en contact avec quel anneau est... Certes, enfin, qu'il y a une importance dans...
Voilà. En faisant court, le cambium est juste sous l'écorce, si je ne me trompe pas. C'est une couche verte qui est juste sous l'écorce.
Et c'est là qu'il y a les canaux où circule la sève.
Et surtout, il y a les cellules d'accroissement, de croissement et de cicatrisation et de soudure, elles se trouvent là.
Le greffon, c'est une pousse de l'année précédente que l'on coupe, hein, et qu'on va implanter sur le porte-greffe.
Donc il faut prendre de son pommier une pousse donc de l'année précédente, donc pas une pousse qui a pas une branche qui a 4 ans et qui est déjà grosse.
C'est à peu près ça, c'est à peu près la taille de...
Donc 20 cm,
une vingtaine de centimètres,
5 mm de diamètre
et une vingtaine de centimètres de...
La longueur n'a pas d'importance.
La longueur n'a pas d'importance. Donc 5 mm de diamètre, donc on prend du coup une...
Avec, il faut au minimum 2-3 yeux.
Donc 2-3 yeux, c'est-à-dire... est-ce que c'est, ça, correspond à ce qui fera les bourgeons,
voilà. C'est les nervures, en fait, en quelque sorte.
Ouais. Donc, on prend 2-3 yeux pour être sûr d'avoir bonne longueur.
Et ensuite, on vient les greffer sur le porte-greffe.
Que l'on coupe
à ce niveau-là.
2 cm du collet.
Et alors, le porte-greffe... Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je peux faire ça sur mon arbre qui a déjà 15 ans ? J'ai l'impression que non. Le porte-greffe, c'est quoi du coup ? C'est un arbre qui est jeune ?
Là, on a par exemple, pour le poirier, on a des cognassiers, des poiriers francs, donc qui sont nés d'un semis, par exemple, de pépins. Hein ? Pour le pommier, on a du pommier franc et autre chose.
Disons, avec le porte-greffe, on va, disons, jouer avec la nature et les cousinages. Alors, par exemple, on va prendre l'exemple, deux exemples, pommier et pêcher. Le pommier, si vous voulez un grand arbre qui va pousser à 5-6 mètres de haut, le grand arbre de prairie, eh bien, vous allez greffer sur un porte-greffe très puissant, sur du franc. On appelle ça du franc. Par contre, si vous avez beaucoup moins de place dans votre jardin, que vous voulez un petit arbre et puis que 5-6 kilos de pommes, ça vous suffit, eh ben, vous allez le greffer sur un porte-greffe qui s'appelle le M9. Et si vous voulez un arbre intermédiaire, ben, vous le grefferez sur un M106.
D'accord, donc
ça, vous voyez, avec un porte-greffe, on peut jouer sur les hauteurs. Après, un porte-greffe peut vous permettre de jouer sur le sol. Vous prenez l'exemple du pêcher. Le pêcher... Sur le calcaire, sur les terrains calcaires, il ne pousse pas. Mmh. Hein, vous semez un noyau, pendant 2 ans, il va pousser, puis au bout de 2 ans, il jaunit, il chlorose, on appelle ça des chloroses, il dépérit, et puis il disparaît. Par contre, il a un cousin qui s'appelle l'amandier, qui est tout à fait adapté, lui, au sol calcaire. Donc, eh bien, vous allez greffer votre pêcher sur votre amandier, et vous pourrez profiter d'un pêcher sur un sol calcaire. Voilà, en gros, les fonctions d'un porte-greffe.
D'accord.
J'ai une question naïve aussi. Comment se fixe le greffon sur le porte-greffe ?
En fait, on taille le greffon, disons en biseau pour être clair. On fend sur le côté le porte-greffe et on introduit on incruste très bien le greffon en faisant bien coïncider les deux couches, comme l'ont dit mes camarades tout à l'heure.
Et les anneaux vont se joindre d'eux-mêmes après ?
Ah bah oui, il faut les mettre en coïncidence et ça va se souder.
D'accord.
Et on les attache avec un élastique spécial, hein, de manière à ce qu'ils ne bougent pas les deux. Hein.
D'accord.
Voilà. Et on met aussi de la cire, hein, parfois c'est pas obligatoire.
Voilà, cire ou comment ça s'appelle, un mastic cicatrisant adapté. ou mastic.
Et Francis, en Normandie, faisait autrement?
Oui, ça, c'est des techniques vraiment locales. Donc, il n'y avait pas de mastic que l'on connaît actuellement, ni des élastiques. On faisait ça avec de l'argile et puis de la paille.
D'accord.
Du foin.
D'accord.
Alors, autre précaution, c'est de protéger. Alors, en général, on met un anneau par-dessus pour éviter qu'il y ait un petit oiseau qui vienne se percher dessus et qui fasse bouger le greffon et que les deux fameuses couches ne soient plus en contact.
D'accord.
La cicatrice, est-ce qu'elle se voit au niveau de l'arbre, oui, une fois qu'il est plus grand? Ouais, ça fait un anneau un peu plus large à ce niveau-là.
Ça reste toujours visible, surtout si le porte-greffe est plus vigoureux que la greffe, que le greffon, ou vice-versa. On le voit beaucoup plus sur les cerisiers. Ouais. Dans les jardins, si vous jetez un œil dans les jardins, vous verrez comme un gros bourrelet, à peu près à 1,50 m, 2 m du tronc, en haut du tronc.
Et alors, du coup, une autre question. Je suppose que là, on arrive au moment où doivent être faites les greffes, sinon votre formation ne serait pas en ce moment. C'est quoi la période idéale pour les greffes?
Eh bien, c'est toute l'année.
C'est toute l'année, donc j'ai tout faux.
Ça dépend de la technique que l'on utilise.
D'accord, donc on peut faire ça toute l'année, même là, en hiver, avant le gel. Et
Là, on va faire les greffes à œil dormant, c'est-à-dire avec des greffons que l'on a coupés au mois de janvier, principalement de pommiers poiriers, parce qu'à tellement là, au printemps, les greffes de cerisiers prumiers sont plus aléatoires. Donc là, on est plutôt dans ce qu'on appelle donc dans les greffes à incrustation, c'est-à-dire qu'on incruste le greffon, le petit morceau de bois, dans le porte-greffe.
D'accord.
Après, on va voir pendant tout l'été, on va avoir deux techniques qui vont très bien, qui sont des greffes d'œil. On prend juste un œil, c'est des greffes en verre. Alors, c'est soit le shipbuilding, qui est une technique anglaise d'incrustation d'un œil dans de l'écorce, soit donc en écusson, où là on glisse un œil sous l'écorce. Et cette technique-là, on va pouvoir l'utiliser en gros de mi-juillet jusqu'à mi-septembre, selon les variétés. Hein, donc au début, il y a les pruniers, et puis après, il y a les pommiers qui viennent, les poires, etc. Et par contre, en septembre, là, on va refaire de l'incrustation, hein, ces mêmes techniques qu'on met un greffon, pour les variétés à noyaux, comme les pruniers et les cerisiers. Hein, aussi bizarre que ça puisse paraître, les meilleures reprises de greffe pour les arbres à noyaux, c'est fin septembre, début octobre.
Donc, si vous voulez en savoir un peu plus et avoir plus de détails et avoir du visuel pour voir comment fonctionne la greffe, donc on le répète, demain, vous pouvez aller à la salle des fêtes de Vénier entre 10h et 18h où vous aurez plein d'explications encore plus en détail sur comment est-ce que ça fonctionne. Je vous propose que tout de suite, on fasse une petite pause de musique. Ouais.
Alors également, donc, tous les premiers jeudis de chaque mois, à partir de 14h30 hein, jusqu'à 17h, vous pouvez également venir au verger de Vénier pour profiter justement de conseils et voir comment donc les croqueurs de pommes de Touraine travaillent les arbres.
Super, donc on reviendra juste après la pause sur la différence qu'on a évoquée en début d'émission sur les vergers conservatoires et les vergers de sauvegarde. et pour le moment, on va écouter Jean Ferrat, La Montagne. À tout de suite sur La Rage.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver? Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver.
Et vous êtes de retour sur La Rage sur le 99.fm ou sur www.la-rage.fr. Je suis toujours en compagnie de quatre joyeux croqueurs de pommes et de, et de Thomas Duplex. Donc on a évoqué tout à l'heure, en tout début d'émission, la différence entre les vergers de sauvegarde, donc celui de Vénier, qui est un verger de sauvegarde, et les vergers de conservation, je dis pas de bêtises. Conservatoire, merci. Donc, quelle est la différence entre ces deux types de vergers?
Alors, le verger de sauvegarde, comme son nom l'indique, son but, c'est de sauvegarder, comme on vous l'a expliqué, nous, par exemple, les variétés anciennes locales, c'est-à-dire les conserver, être sûr qu'on... C'est des références, on les conserve. Verger conservatoire... C'est par exemple, ça se fait beaucoup pour des rosiers, pour les arbres fruitiers aussi, mais pour prendre un exemple plus simple, par exemple pour les pivoines, c'est un verger dans lequel on a le plus large panel possible de toutes les variétés de pivoines qui existent en France, voire en Europe ou dans le monde. Alors c'est la même chose, vous avez des vergers conservatoires pour des variétés, parce que des vergers conservatoires pour des pommiers, ce serait compliqué. Il y a à peu près 5000 variétés de pommes locales, comme celles auxquelles nous nous intéressons sur l'ensemble du territoire français. Et puis il y en a 15 000 à peu près dans le monde. Donc, par exemple, on pourrait prendre par variété. Il peut y avoir un verger conservatoire, par exemple, pour les rainettes, qui est une famille très grande, très importante. Vous connaissez au moins la rainette du Mans. Qui est une grande famille. Il y a des variétés, il y a des vergers conservatoires pour des pruniers, puisque le nombre de variétés de pruniers n'est pas du tout de la même importance que pour les pommiers, pour des cerisiers. Est-ce que c'est clair dans votre tête, hein?
Tout
dans
à fait.
Dans un cas, le verger conservatoire, c'est une variété, toutes les variétés qu'on peut trouver. Alors, s'il y en a beaucoup, on va se limiter à la France. Et puis, s'il y en a moins, on va faire tout le monde. Voilà.
D'accord. Très bien. Donc, dans le verger de sauvegarde, du coup, on parle de certaines variétés. On a vu qu'on pouvait aussi aller, on l'a dit juste avant d'écouter Jean Ferrat, on pouvait aller au verger de sauvegarde pour avoir des conseils sur l'entretien de son verger et sur, j'imagine aussi, si on veut... planter chez soi des variétés anciennes, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un entretien spécial, etc. Alors du coup, peut-être pour commencer, on peut revenir sur la vie d'un pommier et son entretien au cours d'une année. Donc comment ça se passe?
Alors l'entretien d'un pommier, ça va dépendre, ça revient un petit peu à ce que je vous expliquais tout à l'heure sur les porte-greffes, ça va dépendre de la forme que vous avez donnée à votre pommier ou à votre arbre, hein, en général. Alors déjà, bon, ce qu'il faut savoir, tout ce qui est arbre à noyaux, hein, prunier, cerisier, on peut les travailler et les former jeunes, mais alors, quand ils ont commencé à être formés, disons, au bout de 5-6 ans, le travail dans ces arbres-là consiste simplement à enlever le bois mort. Alors, c'est des arbres qui ne supportent pas ou qui supportent très mal la taille ou l'élagage. Ensuite, donc, dans les pommiers ou poiriers, alors, les pommiers, on va retrouver toutes les formes. Les poiriers, on va plutôt être sur des pyramides, des espaliers ou des gobelets, des formes plutôt basses. Alors pourquoi est-ce qu'on cultive plutôt la poire sur des formes basses ? Tout simplement que la poire, c'est un fruit qui doit être cueilli. Une poire qui tombe au sol, elle est plus consommable. Elle est blette, elle est plus bonne. Donc la poire, par définition, on doit pouvoir l'accueillir. Donc on est plutôt sur des formes plutôt basses. Il y avait des pommiers cultivés en grande forme, mais qui étaient plutôt des poires qui servaient ensuite à faire du jus.
D'accord.
Pour faire la poire. Qui étaient cultivés plutôt dans les fermes. Et la poire était peu cultivée, était surtout cultivée dans les châteaux et dans les jardins de maisons bourgeoises.
Donc c'est simplement pour des questions de ramasse que la forme des poiriers est plutôt basse.
Voilà. Et également, bon, si on va cultiver des pommiers plus bas, c'est également avec la possibilité de les ramasser. Que bien qu'une pomme, si elle tombe au sol, elle va toujours être consommable, mais elle ne va pas se conserver. Au fruitier, elle va très très vite se détériorer. Donc là, c'est pareil. Si on veut avoir une réserve de pommes pour l'hiver, eh bien, il faut les cueillir.
Oui.
Effectivement, donc, c'est plus simple sur des formes plutôt basses. Donc alors, pour l'entretien des arbres, sur les grandes formes, comme les pommiers, une opération de... Surtout, il n'y a pas vraiment de taille hein, en elle-même, mais c'est surtout veiller à ce qu'il y ait une aération de l'intérieur de l'arbre, que l'air circule bien à l'intérieur. Et puis nous, ce que l'on fait également, alors on l'a fait pas sur tous les arbres, pour bien montrer la différence, c'est brosser le tronc, et ensuite, bon, on le badigeonne avec un mélange d'argile alcaline, avec de la cendre de bois, et décoction de prêle et de consoude.
Donc ça, c'est pour éviter les maladies ?
Voilà, et pour renforcer l'arbre, on aime bien ces plantes-là et l'argile. Donc, les hautes tiges, il y a peu de travail d'entretien à faire. Par contre, alors là, eh bien, les formes plus basses, là, il y a un véritable travail de taille à faire, que là, ben, je ne peux pas vous le résumer en 3 minutes à la radio. Hein, ben, je peux que vous inviter à venir nous voir en 2019, lors de nos activités sur la taille. Voilà. Et puis, ou alors, des gens qui veulent vraiment apprendre la taille, bon ben voilà, hein, c'est tout simplement ben, de rejoindre l'association et de venir aux formations internes de l'association. Parce que nous avons les manifestations grand public, où là, pour des raisons d'assurance, de sécurité, le public ne peut que regarder. Il n'a pas le droit de manipuler. Quelqu'un qui n'est pas adhérent, qui va venir un jeudi au verger, il ne peut que regarder. Par contre, un adhérent, lui, il est assuré par l'association, donc il peut manipuler. Et donc, nous organisons pour les adhérents des journées de formation à la taille, à la greffe.
Où à ce moment-là, ils peuvent donc
prendre en main. Voilà, où là, ils peuvent venir prendre en main et vraiment apprendre. Parce qu'on apprend, en fait, qu'en manipulant.
Il faudrait préciser quand même que pour la taille, pour les formes basses, les poiriers, surtout, donc, les poiriers, bon, on est en pleine dans la zone,
ah,
là,
oui,
hein.
Oui, oui.
On est en plein dans la zone février-mars, hein. Enfin, jusqu'à mi-mars.
Fin mars, 20 mars.
Oui, les anciens disaient, j'ai appris d'un grand-père, taille tôt, taille tard, rien ne vaut la paille de mars.
Et pour revenir un peu sur le calendrier sur l'année, donc il y a les tailles... Il y a deux tailles dans l'année, hein, une taille en vert et une taille
classique.
Est-ce que vous pratiquez aussi l'éclaircissage sur les variétés anciennes ou est-ce que ce n'est pas nécessaire ?
L'éclaircissage, nous avons ce qu'on appelle des arbres en plein vent, c'est-à-dire des arbres que nous avons laissés pousser pour les pommiers. Faire l'éclaircissage sur des arbres en plein vent, et puis il y a une centaine de pommiers, il faudrait une armée d'esclaves. Et hélas, l'esclavage a été aboli.
Donc on peut plus compter. Si mal que ça, quand même.
On peut plus compter sur cette solution-là. Les professionnels ont des haies fruitières qui sont adaptées, bien sûr, et eux qui sont ils font très attention à la taille, à la grosseur, je veux dire, de leurs fruits, éclaircissent. Alors, on dit, ça va amuser le monde, que moi je dis quand je reçois le public, qu'il faut, sont les feuilles, hein, au travers de la photosynthèse, qui nourrissent l'arbre et les fruits, et qu'il faut à peu près 25 à 30 feuilles pour nourrir un fruit. Alors, on va pas les compter, bien sûr, mais on regarde à vue d'œil sur un rameau si ça correspond à 20 ou 25 cm, et puis ça donne une idée du nombre de fruits qu'on peut laisser sur une branche. Voilà.
Et la taille, c'est déjà un éclaircissage. Hein, que dans la taille, on sélectionne les bourgeons à fruits.
Est-ce qu'on peut expliquer les différents types de taille? Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est une taille classique par rapport à une taille de verre, par rapport à un éclaircissage?
Alors, qui se lance?
Il peut le faire.
Alors, la taille en verre, en fait, elle va avoir une fonction, deux fonctions. L'une, c'est de préparer à la taille d'hiver. C'est-à-dire que lorsque l'on fait une taille en verre, hein, en juin, juillet, eh bien, on va arrêter l'accroissement d'un rameau, la montée de la sève, et on va la maintenir au bas du rameau, et on va voir le départ, alors là, c'est technique, je suis désolé, de dards qui vont après se transformer en bourgeons à fruits. Ça, c'est une des fonctions de la taille en verre. Et l'autre taille en verre, bon, c'est pour revenir à ce que disait Jean, c'est en fait de laisser à l'arbre le minimum de feuilles, et les autres feuilles, justement, de donner de l'aération pour deux raisons, maturité des fruits, et surtout photosynthèse, et également donc le passage, aération, passage de l'air à l'intérieur du gobelet ou de la haie fruitière ou de l'espalier, de manière à limiter les maladies. Alors déjà, un conseil qu'on peut donner, c'est que au moins sur 40 à 50 cm, il faut qu'il n'y ait rien au pied de l'arbre, hein, que l'air, déjà, elle tourne, elle circule, hein, autour du gobelet ou autour de la haie fruitière. Et puis ensuite, à l'intérieur de la haie fruitière, ou du gobelet, eh bien, de faire entrer la lumière à l'intérieur, et surtout de faire des échanges d'air qui vont limiter surtout les formations de champignons, d'une part, et qui vont mettre très mal à l'aise les prédateurs éventuels.
Est-ce que alors on est parvenu sur l'éclaircissage?
L'éclaircissage, lorsqu'on a une optique de production, évidemment, il est nécessaire. Hein. Donc ça permet d'avoir des fruits plus gros. Mais nous, ce n'est pas notre optique à nous. Donc nous, c'est la conservation des variétés. Donc on ne pratique pas nécessairement un éclaircissage. On le fait sur les variétés, donc en espalier ou en gobelet, où c'est plus facile d'accéder. Hein, mais pour les arbres en plein vent, on n'éclaircit pas.
Je vais me refaire l'auditeur qui n'y connaît rien. Est-ce qu'on peut expliquer aussi ce qu'est le gobelet?
C'est une forme basse, peu élevée, qui a la forme, oui, si on l'appelle gobelet, un peu la forme d'un
parce
gobelet.
Parce que la forme, d'accord.
Comme ce que vous avez devant vous, là, sauf qu'il n'y a pas d'anse.
Et qu'il y a un pied.
Voilà. Si vous voulez, on a un tronc qui n'est pas très haut, et au bout de ce tronc, on a quatre branches, en gros, quatre à six branches qui partent en biais.
D'accord.
Et voilà. Tout ça, ça ne monte pas à plus de 2 mètres, 2 mètres 50.
Voilà, et l'intérieur est totalement vide.
Ok.
C'est vraiment l'image d'une taille bien spécifique, qui est la taille de formation.
D'accord.
Dans la jeune vie de l'arbre. D'accord. Dans un premier temps, on fait des tailles de formation, et puis après, on fait des tailles de fructification.
D'accord. D'abord former.
Donc, les tailles de formation pour donner, vous me reprenez si j'ai complètement faux, pour donner la forme à l'arbre, et les tailles de fructification pour qu'il fructifie correctement et pour qu'il y ait quand même...
Il n'y a aucune traîtrise dans nos appellations.
C'est assez clair.
C'est imagé.
Pour le coup. Donc pour revenir sur le but principal de l'association, on en a parlé pareil au tout début de l'émission. Une variété que vous découvrez, qui est ancienne, dont vous avez entendu parler, qui existe peut-être dans le verger de l'arrière-grand-mère ou de la doyenne du village. Comment vous faites pour déjà découvrir ces variétés-là et comment on fait ensuite pour les sauvegarder ?
Ah bah, le découvrir, c'est un peu la pêche à la ligne et un problème de relation. Ou bien quelquefois, quand on aperçoit dans un verger des vieux arbres, on va tirer les sonnettes et puis prendre contact avec personne. Pour le multiplier, ça c'est très très simple. Il suffit au mois de janvier d'aller prélever des greffons et puis de greffer un mois après.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant nous, il y a eu des gens qui s'appellent des pomologues. Mmh. Et alors, pomologue, c'est pas que les pommes, c'est l'étude de tous les fruits. La pomologie, en fait, c'est tous les fruits, ça vient de pomos, hein, du latin, fruit. Et en fait, les premiers écrits sur les fruits remontent à Pline l'Ancien. Mmh. Et tout au long de l'histoire, de l'avancée, bon, vous avez ensuite Olivier de, pour citer quelques-uns, Olivier de Serres pour nous, et puis surtout, le 19e siècle était très très riche en écrits, et donc on a des références de fruits qui étaient cultivés dans les régions, où la mise en place du fameux index officiel des variétés n'était pas encore en place. Donc à cette époque-là, les gens qui faisaient les recensements recensaient tout et notaient tout. Donc nous, on a déjà une base. Et en fait, bien souvent, c'est lorsque les gens apportent un fruit lors d'une manifestation que, chez nous, les gens de la section pomologie, qui sont des pomologues en herbe, comme Jean, hein, il pourra vous parler de la pomologie, ce que c'est, ou de, voilà, Francis, vont ensuite, par recoupement, eh bien, retrouver cette pomme et dire, ah ben tiens, effectivement, c'est bien une variété qui était cultivée dans la région au 19e siècle ou au 17e siècle par rapport aux écrits qu'ils ont ou qu'ils connaissent et aux descriptions.
Donc c'est souvent par des pommes qui vous sont apportées. Donc vous avez le fruit et la preuve de l'existence du fruit et que la variété est encore là. Est-ce que ça arrive que ce soit l'inverse ? Vous ayez connaissance de variétés par des écrits qui ont existé et que vous aimeriez retrouver, où là, vous devenez chasseur de pommes, et là, comment
ça,
on fait ?
Ça existe aussi, on fait passer dans les revues un avis de recherche.
Recherche activement
tout à fait, tout à fait, tout à fait.
D'accord.
Et même quelquefois, elle a émigré, il y a des gens d'autres régions qui nous dépannent. Et réciproquement, on a des avis de recherche qui viennent des autres régions.
Le dernier exemple, c'est la vraie prune de Sainte-Catherine. Donc, comme la dernière exposition était axée sur les fruits séchés.
Faut raconter, là, maintenant.
Et donc, on a...
Faut tout dire, maintenant.
On avait un spécialiste...
Un historien
qui nous a appris que les prunes de Sainte-Catherine qu'on avait n'étaient finalement pas les vraies prunes de Sainte-Catherine avec lesquelles on faisait les pruneaux de Tours.
Mince.
Voilà, donc problème, et on a donc recherché, et ces prunes étaient cultivées à l'abbaye de Citeaux, en Bourgogne.
Voilà.
Voilà.
Là, parce que le monde ecclésiastique a été un très bon conservateur de variétés fruitières, et il y avait des échanges entre les abbayes, hein, et heureusement, donc la Sainte-Catherine... qui aurait été amené en Touraine par Aliénor d'Aquitaine et qui aurait commencé à être cultivé à Fontevraud. Ça, c'est tradition orale, hein, donc on ne peut pas garantir la véracité. Mais ce qui est sûr, par contre, elle était cultivée en Touraine pour faire le pruneau de Tours. Et avec l'abandon du pruneau de Tours, hein, de la fabrication du pruneau de Tours, eh bien, la variété a été abandonnée. Et ce qui est resté, ce n'est pas la vraie Sainte-Catherine. Par contre, parallèlement, elle avait été aussi cultivée donc, à Citeaux, dans cette abbaye. Et donc là, on vient de la récupérer, on va la réintroduire.
Donc cette fois, le vrai prune.
Voilà, la vraie prune de Sainte-Catherine.
De Sainte-Catherine.
Alors, il y a un débat, elle ne vient pas de Sainte-Catherine de Fierbois, comme le prétendent quelques-uns, très chauvins.
Donc, les habitants de Sainte-Catherine de Fierbois, si vous nous écoutez...
Avis aux entendus.
Voilà, a priori, elle ne vient pas de chez vous. Désolé pour vous. Vous n'aurez pas la fierté d'avoir vu la prune de Sainte-Catherine pousser chez vous. Autre question, si je veux consommer des fruits anciens, est-ce que des variétés anciennes, est-ce que vous les vendez ? Comment ça se passe en fait ? Parce que du coup, vous avez des vergers qui produisent des pommes peut-être pas grosses parce que c'est pas votre objectif et qu'il n'y a pas d'éclaircissage, mais du coup, vous en avez forcément beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'elles deviennent ces pommes ? Est-ce qu'elles sont consommées ou pas ?
Alors, comme il a déjà été dit, la finalité n'est pas la production des pommes. Pour nous, c'est la sauvegarde, donc les pommes sont un sous-produit. Mais néanmoins, on ne va pas le négliger. Donc, on en vend quelques-unes à notre exposition annuelle qui a lieu au mois d'octobre, l'exposition des fruits de nos vergers. Quand c'est une bonne année, c'est pas tous les ans, hein, quand c'est une bonne année, on fait du jus de pomme qu'on fabrique en live à l'occasion de cette exposition de pommes qui a lieu au mois d'octobre. C'est facile, c'est toujours le week-end du Paris Tour, hein, donc on ne va pas se tromper. C'est facile comme repère. Et puis on en consomme, nous, pour les manifestations qu'on a, lorsqu'on a des invités ou en interne. Et puis on en vend un petit peu à l'occasion des manifestations auxquelles on participe. C'est limité à ça.
Et Francis, il va nous expliquer qu'il fait de la confiture, alors bien spéciale.
Oui, c'est une confiture très spéciale. C'est une confiture dont j'ai retrouvé la recette dans des livres de 1800, à peu près 1850. Et c'est une recette de pommes, de confiture qui se fait avec des pommes, exclusivement des pommes. Donc, on prend du jus de pomme dans lequel on ajoute des pommes. Et on laisse cuire très 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 longtemps pour avoir un concentré, mais on n'a pas de sucre ajouté. Donc c'est des après, bon, ça nous fait une confiture qui est assez délicieuse, qui est très appréciée, et je la fabrique le jour de l'exposition de notre animation sur l'exposition des pommes au mois d'octobre.
D'accord.
Et donc elle est parce que la cuisson est longue, il y a quand même un taux de sucre suffisant pour la conservation.
Ben, il faut savoir que dans un litre de jus pomme qui sort du pressoir, on a à peu près 100 grammes de sucre. 100 grammes de sucre, c'est 20 pierres de sucre.
Pour un litre, donc.
Pour un litre. Donc, il y a suffisamment de sucre dans le jus pour faire de la confiture. Ouais, il faut simplement faire réduire le jus, faire évaporer l'eau, et dans cette réduction, on ajoute des pommes.
Comparaison avec une confiture de pommes classique, qu'est-ce qui va changer dans l'aspect, dans le goût, dans la texture ?
Dans l'aspect, on va surtout la couleur.
Alors c'est quelle
plus
couleur ?
Plus solide que la compote.
D'accord.
Une compote qui a très peu cuit, elle va être couleur de la chair de la pomme, généralement. Là, ça va être une couleur plus marron, un peu caramel. Et au niveau du goût, ça va plutôt, si on la laisse cuire très longtemps, on aura peut-être une tendance à retrouver du goût de pruneau.
D'accord.
Et du coup, c'est une confiture qui est opaque, pas translucide ?
Ah oui, c'est opaque, oui. Je pense qu'on pourrait aller même jusqu'à la réduction, encore à faire encore plus réduit. On arriverait, je pense, à faire un caramel, quoi, faire une pâte.
D'accord. La pâte de fruits.
Ouais.
D'accord. Eh bien, si avec ça, on n'a pas faim... Moi,
J'en ai pas sous la main.
Ah, non. Dommage. Est-ce qu'elle a un nom spécifique, cette confiture ?
Cette confiture, le nom dans toute la Normandie, parce que c'est une recette qui vient de la Normandie, sur les départements du Calvados, de l'Orne, de la Sarthe et puis de l'Eure, on l'appelle le paumé.
D'accord.
P-O-2-M-E, accent aigu. Dans la Manche, dans le Cotentin, j'ai retrouvé des noms, ça, on l'appelle le sirop. Ouais. Peut-être dû au cidre cuit, sirop, enfin on ne sait pas très bien.
C'est contre-intuitif vu l'aspect que vous décrivez, qui est plutôt compact.
Oui, compact, c'est plutôt... C'est vrai que la réduction du jus de pomme, on prend une consistance sirupeuse, quoi. Donc c'est peut-être pour cette raison qu'on a fait d'abord du sirop et ensuite on a ajouté des pommes dedans.
D'accord.
Et alors peut-être pour terminer, sauf si Thomas t'as d'autres questions, qu'est-ce qui vous a amené au départ à intégrer l'association dans laquelle vous êtes maintenant ? Est-ce que vous êtes tous un peu historiens et vous aimez les pommes, du coup vous vous êtes dit bon, ben, je vais combiner les deux dans la sauvegarde de variétés anciennes. Qu'est-ce qui vous a emmené vers cette association ?
Alors, je crois qu'il y a au travers des 200 adhérents différentes motivations. Reconnaissons que dans la population encore de notre génération, il y a beaucoup qui sont d'origine rurale et qui sont proches de la nature. Moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir du terrain et des arbres, donc je suis directement concerné. Et je me suis toujours intéressé parce que compte tenu de mes origines rurales, en fin de compte, toujours été très proche et vu mes grands-parents, surtout, s'occuper des arbres. Et quand j'étais petit, pour pimenter un peu la chose, quand j'étais môme, mon grand-père avait beaucoup, beaucoup d'arbres fruitiers et il me faisait ramasser les fruits avec 3 paniers différents, ce qui était franchement mauvais, irrécupérable, ce qui pouvait aller aux cochons et le 3e panier, ce qui était réservé aux humains.
Il avait lu l'arrêté de Turgot.
Peut-être.
Pour les autres ?
Moi, pareil, hein, je suis petit-fils de petits agriculteurs, et donc j'ai vécu à la campagne. C'est ce qui m'a amené aussi à m'intéresser aux croqueurs de pommes. Et en plus, par relation, hein, parce qu'on a des amis qui font partie des croqueurs de pommes, qui savent qu'on approche de la retraite, qui viennent se dire « tu vas avoir du temps libre », voilà.
Alors, vous êtes essentiellement des retraités, j'ai entendu ma génération et... Donc c'est essentiellement des retraités qui sont dans l'association ?
Moi, je suis jeune retraité, oui, j'adhère vraiment à l'association depuis 2 ans. Avant, j'étais adhérent, mais bon, simplement adhérent, je ne participais pas à grand-chose. Et je pense qu'il ne faut pas attendre justement d'être à la retraite pour adhérer à ce type d'association. Je pense que même pour... c'est une activité qui demande beaucoup de temps, et le cycle d'un arbre, d'un pommier, est très long. Donc, ce n'est pas comme maquette d'arbres, ça ne se fait pas en 8 jours. Quoi. Donc, le résultat, on l'observe au fil des mois, ça peut être un, deux ou trois mois. Lorsque vous faites une taille, vous allez voir si vous avez bien taillé que dans 3 mois, quoi, 6 mois. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir 65 ans pour planter un arbre qui va produire à 70 ans. Quoi. Vous n'allez pas en goûter, vous n'allez peut-être pas en goûter, quoi, c'est ça. Donc, vaut mieux planter les arbres lorsque vous avez 20 ans, ou même lorsqu'il y a, il y a une naissance dans la famille. Planter un arbre fruitier, c'est parfois plus joli, aussi joli qu'un arbre d'ornement. Et puis, au moins, vous allez en profiter, puis faire découvrir des pommes aux enfants.
Ça se fait dans certaines traditions familiales. On plante un arbre au-dessus d'une bouteille pour un mariage ou pour une naissance ? Je ne sais pas si ça se fait, en tout cas, dans l'Ain. C'est peut-être que dans l'Ain qu'on fait ça, ou on faisait ça, en tout cas, d'où je viens.
En Haute-Marne également, on le faisait.
Ah, en Haute-Marne. Alors, est-ce que c'est pour le mariage ou pour les naissances ?
C'était pour les naissances, je crois.
Pour les naissances, voilà.
Oui, pour les naissances, il était coutume de planter des peupliers, qui donnent très peu de pommes, d'ailleurs. Mais on plantait des peupliers parce qu'au bout de 20 ans, lorsque la fille allait se marier, ou le garçon, ça faisait une dot.
Ah oui, c'est ça, exact. Mais voilà, c'est ça que j'avais en tête.
Nous avons tous commencé à être croqueurs de pommes avant d'être retraités. C'est-à-dire qu'on est plus actifs dans les croqueurs de pommes depuis qu'on est à la retraite, mais on était adhérents avant d'être retraités.
Donc, simple question de temps, j'imagine. Voilà. Oui. Du coup, pour les deux autres, qu'est-ce qui vous a emmené vers cette association au départ ?
Bah, l'intérêt pour les arbres, on découvre un jour dans une revue ou bien on écoute sur une radio ou à la télé, puis on dit tiens, il existe cette association, ou bien comme il a été dit tout à l'heure, on a un ami, un voisin qui nous prend par la main et qui nous emmène, ou on y va de soi. Et puis je dois avouer que moi, ça fait bien une bonne quinzaine d'années, avec mon épouse qui participe aussi, on s'y est trouvé bien et que l'ambiance est tout à fait agréable. J'ai une grande expérience du milieu associatif dans des points d'intérêt tout à fait différents. Je dois avouer qu'ici, tout le monde a la même vision et que c'est très agréable. C'est pour ça qu'on continue. J'ai supprimé toutes les autres compte tenu de mon âge qui commence à devenir intéressant et que je conserve plus que celle-ci.
D'accord. On a fait le tour, non ? On ne sait pas le président, ce qu'il a emmené dans cette association.
Qui m'a emmené, bien, moi, je suis un peu comme Francis. Hein, moi, j'ai adhéré en 90 ou 91, mais j'étais qu'adhérent. Hein, je participais que très moyennement. En fait, je m'occupe vraiment depuis 3 ans, hein, depuis que je suis retraité. Alors, ce qui m'a emmené, c'est que, bon, quand je suis arrivé en Touraine avec mon épouse, donc on a acheté une maison avec des terrains. Et donc, évidemment, d'origine rurale, je voulais planter donc des arbres fruitiers. Et je ne trouvais pas dans les catalogues habituels ou dans les jardineries, sorti des 7-8 variétés de l'index officiel. Moi, ce n'est pas tout à fait ce que je recherchais. Et ça doit être par hasard hein, que je suis tombé sur un article de la Nouvelle République qui présentait une bourse au greffon, hein, première manifestation que je suis venu, c'est une bourse au greffon. Et voilà, puis de petit en petit, bon ben je...
La greffe a pris.
Comme le disant.
On adapte les dictons.
Les gens savaient vous accueillir, savaient vous conseiller. Ouais, voilà, et donc on s'y sentait bien. Même si vous ne participiez pas énormément, vous étiez toujours accueillis avec le sourire, etc. Donc c'est important hein, dans une association, ça. Et donc, ben voilà, ça a continué, ça fait son chemin. Puis après, effectivement, quand on a du temps, eh bien, on va vers les activités qui nous passionnent, quoi.
Évidemment. Du coup, pour terminer, on a pas mal parlé de la manifestation qui a lieu demain de 10h à 18h à la salle des fêtes de Vénier. Donc, vente de greffons et démonstration de greffage. On martèle, exactement. Est-ce que vous avez d'autres activités qui vont bientôt arriver dont on pourrait parler maintenant, ou est-ce que vous ne les avez pas forcément en tête? Est-ce que vous avez un dernier mot à dire pendant que vous êtes à la radio et que vous avez un petit temps, une petite fenêtre pour faire la promotion éventuellement de prochaines activités? Je vous écoute.
Donc eh bien déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les premiers jeudis de chaque mois, l'après-midi, de 14h30 à 17h, où on a nos activités au verger. Et là, bon, bah, tout le monde est bienvenu pour voir et pour... nous, on est à l'écoute, on peut vous donner des informations, des renseignements, des conseils. Ensuite, donc, on va avoir... La prochaine manifestation, c'est en juin. C'est le 24 juin. C'est Mon Verger l'été. Alors, donc, c'est une activité où il y a de la taille en verre. Il y a l'explication des principes de greffe
en
écusson et en shipbuilding. Mais il y a également tout un côté, et là, bon, il y a Gérard qui s'est un peu spécialisé dans ça, donc d'entretien du verger à partir d'argile, de plantes, etc. Il fait ça avec une autre adhérente qui s'appelle Sylviane. Donc les traitements au verger l'été... toujours, donc souvent, il y a nos amis, les apiculteurs qui sont là et qui, eux, vont parler d'apollinisation, parce que ça aussi, c'est important. L'abeille, l'arbre fruitier, hein, c'est la même chose, hein, c'est lié. Et puis également, donc, il y a toute une partie sur le sol, dans le verger, avec ce qu'on appelle le BRF, les choses comme ça. On insiste plutôt sur ce qu'il ne faut pas faire. Et puis évidemment, donc, il y a Jean qui est là et qui fait visiter le verger, et qui explique la petite et grande histoire des fruits du verger.
Donc,
pour terminer l'année, donc on va sauter en octobre. Notre grande exposition qui est le...
Donc la grande exposition où il y a toutes les variétés du verger.
Qui est les 6 et 7 octobre de cette année. Ah, et où donc là, vous pourrez d'une part voir toutes les pommes que l'on cultive sur le territoire, parce que l'association, donc, elle a en propre le verger de Vénier, mais on a également une convention avec le département qui a un verger d'un hectare et demi au château de Candé, avec laquelle on a un partenariat très soudé, hein, très intéressant. Et donc, au cours de, donc vous pouvez voir donc les fruits cultivés. Vous pouvez déguster du jus de pomme frais. S'il y a des pommes, donc vous pourrez éventuellement donc vous procurer des pommes du verger de l'association. Et également, donc il y a l'atelier du goût, il y a des exposants, il y a la fabrication de pommées par Francis. Donc voilà, il y a plein d'activités, ça dure 2 jours. Et cette année, donc, on fera le lien avec les lapins et les poules, les animaux domestiques de Touraine. Voilà, normalement.
Très bien.
Si ça se concrétise avec les 2 autres associations. Et puis également, donc, on répond aux sollicitations donc, de collectivités ou d'associations pour justement faire des petites expositions de pommes avec des petites conférences.
Donc on ne peut que vous conseiller de vous rendre en octobre à la grande exposition. D'ici là, vous pouvez retrouver les croqueurs de pommes de Touraine au 5 Changuero à Bousset. Vous pouvez les contacter au 02 47 19 28 23 ou vous pouvez les retrouver sur le site, sur leur site, les crocs, alors les crocs, LESCROQS de Touraine.free.fr. Vous retrouverez évidemment toutes ces informations sur notre site internet sur www.la-rage.fr.
Alors tout simplement, hein, vous tapez... les croqueurs de pommes de Touraine et vous accédez au site.
Voilà, exactement. On vous donne des informations.
Très bon site. On a 2 nouveaux informaticiens avec nous qui ont beaucoup travaillé et...
sur la nouvelle forme du site.
Voilà. Alors pour nous, c'est peut-être une petite nouveauté. Pour ceux qui nous écoutent, c'est peut-être
banal.
Mais vous pouvez nous interroger à partir du site si vous avez des questions à poser sur vos fruitiers ou autre chose. On a un système donc de boîte à lettres sur le site.
Eh bien, parfait. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour entretenir votre verger chez vous. Et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à contacter donc, les croqueurs de pommes de Touraine ou d'ailleurs. Si vous nous écoutez de plus loin que la Touraine, l'association a des antennes ailleurs dans toute la France et même en Europe. Donc, voilà, vous avez pas mal de choses en main pour pouvoir... apprendre encore sur les pommes et les variétés anciennes. Merci à tous d'avoir été là et à peut-être à bientôt sur les ondes de la Rage. Et on va se quitter avec Georges Brassens auprès de mon arbre.
L'association des croqueurs de pommes de Touraine vous remercie.
À bientôt sur la Rage.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie, j'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais me brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe, le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant, d'avec ma femme j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne, Valencelle là. qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes. Je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes. Y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.